Le journal Loïc Barrière. L'ONU appelle d'autres pays à suivre l'exemple de l'Allemagne qui a condamné un criminel de guerre syrien. À Tunis, les forces de l'ordre ont fermé les accès à l'avenue Bourguiba avant une manifestation d'Ennahda commémorant le 11e anniversaire de la chute du président Ben Ali. Au Liban, le dialogue national voulu par le président Aoun quelques mois avant la fin de son mandat est-il voué à l'échec? Nous écouterons l'analyse de la journaliste Randa Takieddine. En France, 4 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. L'avocate Khadija Azougash réclame davantage de moyens financiers et humains au sein de la justice. L'invité ce soir de Pluriel est la députée Alban Gaillot. Elle est à l'origine d'une proposition de loi visant à prolonger la durée légale de l'avortement pour les femmes qui arrivent tardivement dans les parcours d'IVG. Enfin, la mort du Covid du célèbre architecte espagnol Ricardo Bofill. Les criminels de guerre syriens seront poursuivis tôt ou tard dans leur pays ou à l'étranger, c'est ce qu'affirme Michelle Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, après la condamnation en Allemagne d'un ancien haut responsable syrien pour crimes contre l'humanité. Après ce verdict historique, Michelle Bachelet appelle les autres pays à suivre l'exemple de l'Allemagne en menant des enquêtes contre les crimes internationaux selon les principes établie de la compétence universelle et extraterritoriale. En Tunisie, Ennahda et d'autres partis politiques ont maintenu la manifestation prévue ce vendredi, 11 ans après la chute de Ben Ali, le 14 janvier 2011. Ennahda proteste contre la décision du président tunisien de ne plus commémorer la révolution ce jour-là. Le gouvernement tunisien a interdit les rassemblements pour faire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19. Mais pour le parti Ennahda, cette interdiction a des motifs politiques et non sanitaires. Les forces de l'ordre ont bloqué les accès à l'avenue Bourguiba à Tunis. Au Liban, les syndicats de transporteurs routiers ont mené une grève jeudi pour dénoncer le marasme économique et la crise sociale. Le président Aoun, lui, a lancé l'idée d'un dialogue entre toutes les forces politiques. Un dialogue voué à l'échec, estime la journaliste Randa Takieddine.
C'est un appel à un dialogue qui est pas très compréhensible, si vous voulez, du point de vue de l'observateur. C'est-à-dire, quelques mois avant la fin de son mandat et avant des élections programmées, il demande à faire un dialogue avec qui et comment. Moi, je ne crois pas à un dialogue comme ça quand seul le Hezbollah a accepté. Donc, ce sera un dialogue, disons, un monologue entre deux alliés, quoi. De toute façon, c'est Hezbollah qui contrôle toute la situation. Le président de la République, c'est un allié du Hezbollah et son gendre également.
Ce dialogue doit porter sur plusieurs sujets, notamment les questions militaires.
Je vois mal comment est-ce que c'est possible que dans leur alliance qui a fait que le président de la République a été placé par Hezbollah comme président, comment est-ce que c'est possible qu'il va lui convaincre le Hezbollah, alors que c'est le Hezbollah qui a tout le pouvoir, de remettre ses armes à l'armée. Je ne crois pas que c'est une possibilité. Je pense, si vous voulez, que c'est plutôt un deal pour placer son gendre comme son successeur possible, parce qu'il sait que c'est seul le Hezbollah qui élit les présidents au Liban.
Le dialogue, en fait, il n'est pas nécessaire car les Libanais vont devoir s'exprimer à l'occasion des élections législatives.
Écoutez, moi, j'ai des doutes sur cette élection législative. D'abord, j'ai des doutes sur cette loi électorale et qu'est-ce qu'elle va produire. Deux, j'ai des doutes si ça va avoir lieu. Trois, j'ai des doutes aussi sur le fait que ça va changer grand-chose tant que ce parti qui s'appelle le Hezbollah contrôle tout. Il contrôle les candidatures, la loi. Il contrôle un peu tout avec ses armes. On n'est pas sorti de l'auberge avec ce parti qui domine la politique dans le pays et l'Iran derrière.
Sur qui peuvent compter aujourd'hui les Libanais, puisqu'on voit qu'il va y avoir un fonds franco-saoudien et émirati qui doit aider les Libanais?
Ben oui, mais ça c'est très important parce que le peuple libanais a besoin d'argent, il a besoin de pas seulement d'argent, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et je pense que c'est très bien s'ils arrivent à décoller ce fonds. Car il y a des besoins énormes pour la population libanaise. Ça, ce n'est pas pour l'État libanais, c'est pour la population libanaise, je suppose. On a besoin d'écoles, on a besoin de payer des professeurs, on a besoin de tout. À mon avis, dans le secteur de santé, dans le secteur d'éducation, dans le secteur d'alimentation, on a besoin de tout et un fonds, merci pour les efforts du président Macron. J'espère qu'elles vont aboutir parce que il faut voir encore comment les autres vont mobiliser les fonds. C'est bien d'avoir un fonds, c'est bien d'avoir des fonds pour aider des secteurs humanitaires.
Il faudra contourner l'État libanais pour que la population puisse bénéficier directement de ces sommes.
Oui, parce que l'État libanais n'arrive pas à faire le gouvernement n'arrive pas à se réunir puisque Hezbollah bloque tout. Et comment voulez-vous que ces sommes soient déboursées si elles doivent passer par le gouvernement et si elles attendent des décisions gouvernementales, ce n'est pas possible. Tant que le gouvernement ne se réunit pas, il n'y a pas, c'est pas possible d'aller à travers les structures de l'État. Tout est sclérosé dans le pays. Il n'y a rien qui se passe au niveau de l'État. Il n'y a pas d'électricité. Tout est paralysé, quoi. Tout est en train de manquer, l'argent manque, le dollar est à 30 000 livres, c'est une crise indescriptible. C'est un pays qui n'était pas un pays pauvre, qui s'est appauvri et qui est sur la voie de déchéance complète.
La journaliste Randa Takieddine. Pour devenir français par le mariage, il ne faut pas que l'un des deux époux soit en situation de bigamie. Une décision rendue par la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire française. La Cour de cassation était appelée à trancher sur le cas d'une Marocaine qui avait demandé à devenir française par son mariage avec un Français. Mais son mari, lui-même originaire du Maroc, l'avait épousée en France sans avoir rompu un précédent mariage conclu au Maroc. La visite d'Elisabeth Moreno au comité local d'aide aux victimes de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a réuni jeudi les acteurs du département chargés de mettre en œuvre les mesures du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le début de l'année en France a été marqué par 3 féminicides. Un 4e a eu lieu il y a quelques jours, doublé d'un infanticide à Aubervilliers. Pour mettre Khadija Azougache, il faut donner plus de moyens à la justice pour empêcher de nouveaux drames. On l'écoute.
Il est essentiel d'en parler puisque je me rappelle que Monsieur Macron en avait fait une grande cause de son quinquennat. C'est une bonne chose d'en faire une belle cause, mais après c'est une question d'effectivité. Il y a eu le Grenelle d'accord sur les violences faites aux femmes qui a permis de sensibiliser un peu plus la société française et de mettre des dispositifs un peu plus adaptés aux réalités sociales, mais malheureusement ça ne suffit pas aujourd'hui. aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. On peut pas se satisfaire, surtout quand dans les vœux du président, cette grande cause n'apparaît pas du tout.
Qu'est-ce que vous réclamez de façon urgente? Je pense à ces femmes qui ont été tuées au début de l'année. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour sauver leur vie?
C'est difficile parce que les dossiers, je ne les connais pas. Tous les dossiers sont particuliers. Mais ce qu'on peut relever, c'est que début janvier, trois féminicides, alors que jusqu'à fin 2021, on décomptait en moyenne une femme meurt tous les trois jours en France. Et là, quand en début janvier, on a trois féminicides, c'est un peu plus important que pour 2020-2021. Ça explique que malheureusement, il y a non seulement un problème de sensibilisation, de prévention sur les violences faites aux femmes, parce que quand on parle de violence, il faut essentiellement, dès le plus jeune âge, donner les moyens aux jeunes femmes et aux jeunes hommes à lutter contre le sexisme, parce que les violences faites aux femmes, c'est d'abord un rapport de genre, des rapports de domination, et donc ça, c'est un travail de longue haleine, c'est sur le long terme, et on n'aura pas les résultats aujourd'hui, mais c'est surtout un problème de moyens financiers et humains dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on n'a pas encore toute l'effectivité des dispositifs, parce qu'on a de beaux dispositifs, mais malheureusement, sur le terrain, moi, je le constate tous les jours, les magistrats sont souvent seuls, sont encombrés par des dossiers, donc ils peuvent classer rapidement des plaintes, et ça, c'est au détriment des victimes. Donc, il faut plus de magistrats, notamment des procureurs spécialisés. On n'a pas de procureurs spécialisés sur les violences faites aux femmes. Et il faut plus de policiers formés et sensibilisés sur les violences faites aux femmes. Encore aujourd'hui, on a pu voir avec le crime, le féminicide de Chinese Daoud à Mérignac, notamment, on a pu voir que le policier qui l'avait accueilli était un policier non seulement pas formé, mais surtout un policier condamné pour violence conjugale.
Il faut aussi trouver des moyens pour que l'on puisse faire quitter le domicile à l'époux. On s'aperçoit que c'est très difficile d'agir dans l'urgence dans ces situations-là.
La problématique serait essentiellement de mettre en œuvre l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, parce que ça serait encore une sanction supplémentaire que de demander à la victime de se retrouver dans des centres d'hébergement, dans des conditions souvent précaires, avec des enfants. Et souvent, les victimes me le disent, « Maître, je préfère retourner au domicile avec le conjoint violent plutôt que de rester dans des centres d'hébergement inadaptés. » Donc, la solution serait de mettre, parce que le dispositif, notamment l'ordonnance de protection, c'est l'éviction du conjoint violent. Et ça serait essentiellement aussi que le procureur, dès la plainte, avec le contrôle judiciaire, demande plus fréquemment, et c'est pas mis en place fréquemment, cette interdiction de s'approcher du domicile conjugal.
Il y a aussi tout un travail d'éducation à faire, dites-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des hommes adultes? Est-ce qu'il y a une éducation à la vie de couple et au fait que parfois une vie de couple s'arrête?
Tout à fait. C'est une question fondamentale parce que tout à l'heure je vous parlais donc de la prévention des luttes contre de la prévention des violences faites aux femmes. Ça passe par la sensibilisation dès le plus jeune âge, donc par la lutte contre le sexisme. Mais c'est aussi à l'âge adulte, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, notamment devant les tribunaux correctionnels, dans les peines accessoires, il y a la peine de stage, d'obligation de stage. Malheureusement, c'est des stages qui se font en une demi-journée, c'est très rapide, ça ne suffit pas. Pour que l'auteur de violences conjugales puisse notamment refonder une famille, une conjointe, être en relation avec ses enfants, parce que une des problématiques, c'est que on a un auteur de violence qui est un mari violent et qui peut être aussi un père violent, parce que les enfants ont soit assisté aux violences ou soit ont été victimes directement également de violences. Donc ça nécessite un travail approfondi et pas simplement une demi-journée, donc ça nécessite beaucoup de plus de moyens avec une approche pluridisciplinaire, un suivi psychologique, social et notamment une insertion, parce que souvent il y a également ce problème d'insertion.
Maître Khadija Azougache, dans le Pas-de-Calais, un jeune migrant est décédé après avoir tenté de traverser la Manche. Il se trouvait en compagnie d'une trentaine d'autres personnes qui ont été secourues au large de Berck. La personne décédée serait un Soudanais d'une vingtaine d'années. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Alban Gaillot, députée du Val-de-Marne. Elle est à l'origine d'une proposition de loi visant à allonger la durée légale d'accès à l'avortement. Alban Gaillot.
Cette proposition de loi, elle répond à des problèmes et des problématiques de terrain qui m'ont été remontées par des associations, des professionnels de santé, qui nous expliquent effectivement rencontrer les femmes qui arrivent tardivement dans les parcours d'IVG. Et il faut savoir que plusieurs milliers de femmes chaque année sont obligées de partir à l'étranger pour avorter, parce qu'elles n'ont pas de solution en France, parce que les délais sont trop courts, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il n'y a pas assez de structures. Et seules les femmes qui ont les moyens financiers peuvent partir à l'étranger. Donc il faut, afin de répondre à cette inégalité d'accès, cette proposition de loi effectivement prévoit l'allongement des délais de 12 à 14 semaines de grossesse, prévoit également que les sages-femmes puissent pratiquer ce qu'on appelle les IVG instrumentales. Et ce sont des avancées majeures. Il faut savoir que la France n'est pas en avance par rapport aux autres pays européens, puisque d'autres pays comme l'Espagne, le Pays-Bas, la Suède, et d'autres encore sont bien plus avancés.
Alban Gaillot, député du Val-de-Marne, elle est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Le taux de rendement du livret A va passer à 1%, une annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors que l'inflation a été de 1,6% sur l'année 2021. La mort de l'architecte espagnol Ricardo Bofill de complications dues au Covid-19. Il avait 82 ans, un architecte de renommée mondiale. On lui doit notamment la place de Catalogne à Paris, les espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand ou encore le quartier Antigone à Montpellier. Enfin, le Qatari Nasser El Attiya remporte le Dakar en auto. Sam Sunderland finit en tête en moto. La compétition en Arabie Saoudite a été endeuillée par la mort d'un chef mécanicien français dans un accident de la route. Cette édition est terminée. Excellent week-end à tous à l'écoute de Radio Orient.